Alors là, c'est le résumé de tout ce que j'expose aujourd'hui. Bon, il y aura peut-être des petits manques, mais enfin, on ne peut pas citer tout le monde. Je remercie Madame la Présidente et Monsieur Stellen de m'avoir permis de vous parler aujourd'hui des peintres et des musiciens classiques inspirés par l'Italie au XXe siècle.
Quoi ?
Pour la technique, j'ai bénéficié des conseils éclairés de Claude Viviani et de Marie-Chantal Chalot. Et je remercie également tous ceux qui sont présents pour venir m'écouter. La dernière fois, j'ai évoqué le 19e siècle sur le même angle, tout en précisant que le choix des artistes est personnel et qu'on ne peut citer tout le monde. C'est la même chose pour le 20e siècle. Alors on va commencer. En 1903, nous commençons à voir des vues de Venise par Edmond Delacroix et la voile verte de Paul Signac, qui fait beaucoup de pointillisme, dont nous avons vu la voile jaune le siècle précédent. Alors là, c'est Paul Signac, la voile verte, mais il avait fait une voile jaune au 19e siècle. Alors là, c'est Henri Edmond de la Croix des Crosses. Nous poursuivons avec un peintre qui s'appelle Albert Marquet. C'est le port de Naples. Albert Marquet est un peintre qui s'est mis en dehors de tous les courants, le cubisme, etc., et qui a peint selon son inspiration. Là, vous avez quand même un petit effort pour l'effet de nuage qui est ici. Ça rappelle un peu les estampes japonaises. Hein. En 1908, nous découvrons une œuvre d'un peintre, c'est là. En 1910, Claude Debussy compose une œuvre pour piano qui portera le nom de « Sur les collines d'Anna Capri ». Dans cette composition musicale, les tarentelles se succèdent. La tarentelle se dansait surtout à la suite d'une piqûre de la tarentule, une araignée qui donnait une fièvre importante après sa piqûre, et l'on dansait pour éliminer le venin par la transpiration. En 1959, l'anthropologue Ernesto De Martino fait revivre le rituel de guérison. Bon, on a un petit problème là. En 1910, également, nous continuons par un musicien un peu tombé dans les oubliettes, grand compositeur de pièces musicales et d'une opérette qui s'appelait Ciboulette. Né en 1874 au Venezuela, il aimait la France où il fera carrière. Il décédera en 1947, juste avant l'invention du micro-sillon. Ces disques 78 tours tournaient à des vitesses allant de 66 tours minute à 103 tours minute, ce qui était au détriment de la bande passante et de la fidélité des notes. Nous avons choisi pour vous une chanson chantée par Gérard Souzé, qui évoque Venise, son nom est la Barchetta. Le son, là, c'est bon. Gérard Souzé, ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Comment ? Alors, nous avons une œuvre de Claude Debussy sur les collines d'Anacapri. Je ne sais pas ce qui se passe.
En fait, j'ai l'impression qu'on passe par le micro pour le son. Si t'as pas de fil, on va essayer de prendre le fil.
Non, attends, bouge pas. Est-ce que tu peux remettre la musique, s'il te plaît?
Laquelle?
La dernière, là.
Ou la suivante, c'est pas.
Alors, c'est Debussy qui est allé en Italie et qui a composé sur les collines d'Anacapri.
Sortie audio là-dessus, touche à rien. Et elle est où?
C'est ça?
Non, ça c'est la vidéo, ça. Peut-être là. Voilà, c'est bon là. Il faut faire arrêt. Remets de la musique là. Ça devrait aller. Ça donne? Remets la musique. Une musique quelconque, ça va d'accord. Ah mais il devrait couper, il coupe pas.
Il coupe pas.
Je vois rien de toute façon.
Viens par là.
Tu fais tomber quelque chose, fais attention. J'ai mis dans un trou, mais ça coupe dans la radio de ça.
On va laisser en débrouiller. On avait quand même du son.
Oui, mais on avait mis le son, c'était pas un son qui passait par une par un haut-parleur, c'est pour ça.
Là-bas, t'es bien mis là-bas. Remets de la musique, s'il te plaît. Tu mets n'importe quoi, c'est pas grave. Tu cliques sur de la musique. Mets la musique.
Il y a un problème.
Ah, je l'ai coupé, c'est bon, ça devrait marcher. Non? T'as rien? Parce que là, je coupe, hein. Relance la musique encore une fois. Reste dessus et clique. Il n'y a pas à toucher, mais il y a un réglage de niveau. Il faut encore que celui-là, on sache où il sort. C'est pas si simple, hein. Là, tu crois qu'il fonctionne le son? Relance. Non, il n'y a pas de son là. Vas-y, relance le son.
Attends, ça ne va pas être là-bas.
Voilà, ça marche. Alors, si je le mets là-dedans, il doit le couper. Et ça doit donner là-bas. Hein. Là, ça le coupe, mais ça l'arrête.
Bon, il n'y a qu'à le garder comme ça.
Non, mais laisse l'autre micro là-bas. Et puis.
On ne va pas y arriver là comme ça. Ah, il ne coupe pas. Mais le problème, il faut que tu gardes celui-là éloigné de l'autre et donc je le mets là. On peut essayer comme ça, je vois pas l'autre solution. Il est
ça,
là.
Je vais le mettre à
fond. Ouais, mets-le fort. Reste là-bas le temps qu'on voit ça. Bon, on va redémarrer. Recule un peu par là-bas plutôt, tu vois, pour que le micro soit loin de celui-là. C'est bon, c'est bon. Très bien.
Bon, alors c'est une musique de Debussy, mais ça a servi surtout à Ottorino Respighi, musicien italien, qui ne connaissait pas la musique impressionniste comme celle de Debussy, et qui a composé des pièces italiennes pour la Fontaine de Trévis, les Fontaines de Rome, les Pins de Rome. C'est une musique assez lourde pour les Pins de Rome, mais c'est normal, un arbre ne bouge pas. Voilà. Et là, c'est quand même du Debussy. Hein. Vous entendez ? Bon. En 1906, Matisse et Derain font apparaître des visages de femmes italiennes soumises et tristes. Mais Picasso, en pleine guerre 14-18, qu'il n'a pas faite parce qu'il était espagnol, après un voyage en Italie, dresse le portrait d'une Italienne qui va faire ses courses. Ah voilà. Alors, ça c'est un Picasso. Un dôme d'église, ici, nous rappelle que nous sommes en Italie. La technique de dislocation des membres est appliquée. C'est déjà le cubisme qu'il vient de créer avec son ami Braque. Picasso s'est lancé sur les routes d'Italie pendant 3 mois où il a visité Rome, Naples, Pompéi et Florence. À Rome, dans le cadre de la Villa Médicis, il travaillera à son spectacle Parade dans une veine cubo-futuriste avec comme fond de musical la musique d'Éric Satie. Ce dernier se fera loger gratuitement dans une prison française durant 8 jours pour avoir rivalisé d'injures avec un spectateur insatisfait. Et je ne vous dis pas les injures. Picasso aura entraîné dans le groupe de Picto Apollinaire, Robert Delaunay, Jacques Villain, Fernand Léger, Picabia, Marie Laurencin, Diego Rivera, etc. Alors normalement, après, on devrait avoir 2 autres tableaux. Voilà, attendez. Les musiciens. Alors sans doute, le moine est Max Jacob, son ami de jeunesse, qui vient de rentrer dans un monastère, on aperçoit son chapeau. Pierrot et Guillaume Apollinaire, mort en 1918 et ardent défenseur du cubisme. Arlequin et Picasso, vêtus de couleurs au drapeau espagnol. 1915, c'est ce tableau-là. Alors, je vous pose une petite colle légère, parce que nous aussi, on en a une à franchir au début. Quelle est la différence entre ce tableau-là et celui-ci ? Il y a...
Il n'y a pas la même musique,
il y a des tas de petits trucs. Alors, on va rattraper le temps, parce qu'on a perdu du temps au début. C'est le bout de la queue du chat. qui est dans les jambes de... Mais là, on verrait qu'une tête de chien en haut. Mais enfin, ça, c'est une interprétation personnelle.
C'est ce qui a inspiré les frères Jacques.
Je ne sais pas. Vous avez vu qu'il n'y avait qu'un an d'intervalle entre ces deux tableaux, mais la technique est différente quand même. Masque Bergamas de Gabriel Fauré en 1919.
Now an orchestral rearrangement by George Pollan, the alto saxophonist in the band, that gentle piece by Fauré, the overture from his suite Masque and Bergamas.
Elle enlève son masque. Hein. Vous avez le problème de Paul Verlaine. Hein. Ça, que les Anglais aiment notre musique quand même. Bon, on arrête un petit peu. Parenthèse musicale. Alors là, j'étais obligé de parler, de faire un petit extra au programme, parce que si vous voulez, pour comprendre comment la musique s'est arrangée et a suivi les peintres, eh bien, il faut quand même parler du Sacre du Printemps en 1913, Stravinsky. Ce fut le plus grand chahut enregistré lors d'un concert. Le chef Pierre Monteux, que j'ai vu moi à 80 quelques années à Salle Plénière diriger comme un lion, on se demandait s'il arrivait à montrer sur son estrade, mais il avait conservé toute sa jeunesse. Parce que là, je parle de 1913, moi quand je l'ai vu à Pleyel, c'était 1953 ou 1955, je ne sais pas. Alors, pour parler du concert de Sacre du Printemps, de Stravinsky, le chef Pierre Monteux, croyant que les tomates lancées sur la scène étaient destinées aux danseurs, continua à diriger et à conduire la musique de ce ballet jusqu'au bout. En fait, Stravinsky introduisait dans sa musique l'idée de fragmentation des partitions, copiant les peintres cubistes qui avaient tenté de montrer les femmes par une rotation de la tête à 360 degrés, comme dans le tableau Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Donc, musique avec rudesse disharmonique, explosion des cuivres, tonalité mélangée, structure polyrythmique, violence de l'orchestration, c'était la révolution dans la musique, comme dans la peinture. Maintenant, on passe à Pulcinella, 1920. C'est l'histoire du Polichinelle sans boss de la Commedia dell'arte. Stravinsky s'inspirera de la musique napolitaine de Pergolèse, musicien pour lequel il a toujours eu une préférence particulière. Le résultat sera un ballet d'un acte et 8 scènes. Pour Stravinsky, ce sera le spectacle où tout se tient et où tous les éléments forment un tout cohérent et homogène. Tinteront aussi à ses oreilles les accords de Gesualdo, musicien italien, 16e et 17e siècle, qui utilisera le premier les dissonances, c'est pas Mozart, c'est un Italien qui s'appelait Gesualdo. J'ai vu des gens de la chorale ici qui connaissent cette histoire, et dont il ne surprendra guère dans ses partitions musicales modernes. Nous entendrons du soft Stravinsky et du plus dur. Alors, on commence par le soft pour vous inviter au plus dur. Ça, c'est Pulcinella. Au plus dur. Alors là, ça hurle, hein. C'est toujours Pulcinella, hein. Alors, nous passons à Paul en Arlequin. Vous savez que Picasso s'est marié, a eu un fils, et comme il venait d'abandonner le cubisme en 1919, et que son fils avait 6 ans, il ne pouvait pas l'habiller en cubiste. Donc il l'a habillé en traditionnel avec la tenue d'Arlequin. Le regard du jeune garçon reste mystérieux. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Il est intimidé, il est profond, il est C'est spécial. Hein. Mais là, Picasso en 1915, avec la même tenue d'Arlequin, ils ont à peu près les mêmes habits, mais il ne pouvait pas peindre son fils en technique de cubiste. Alors on passe un petit peu à Matisse. Là j'ai fait un petit écart, parce que il a juxtaposé trois visages de femmes dessinées et peintes par lui-même. Alors vous avez Volto di Donna. Alors vous voyez le nez, la courbure, fait le sourcil. Vous avez toutes les mêmes techniques dans les femmes italiennes, y compris dans le tableau Le Luxe, où c'est la base du nez part et fait le sourcil de la femme. C'est assez curieux, mais pour être bon peintre, il faut d'abord être bon dessinateur. Et c'est une technique qui permettait d'alléger les figures. Vous avez compris pourquoi ce que je voulais dire ? Un an plus tard, Matisse déclarera qu'il préférait la figure humaine nue, car cela lui permettait d'exprimer le sentiment quasi religieux de la vie qu'il possédait. Mais tout dans l'esquisse de la danse et dans le tableau définitif qu'on va voir, ça c'est la première version, c'est l'ébauche si vous voulez. Je trouve qu'il a bien fait de la refaire. Parce que là, le garçon est un peu trop maigre, ça le suicide. Bon, ils se tiennent mais à peine par les mains. Donc, c'est pas tout à fait. C'est vraiment l'ébauche. Hein. Donc, on a. Voilà, le tableau qui est exposé à la musée de l'Hermitage. Regardez comme les danseurs sont légers. Il met le bleu et le vert. Ce tableau lui a été commandé par un spécialiste en Russie qui collectionnait les œuvres de Matisse. Il utilisera dans la musique les mêmes couleurs que dans la danse, mais l'expression est plus dynamique. Voilà, la musique. Vous avez l'esquisse. L'esquisse, on voit des grands traits de spatule, c'est un peu rageur, mais j'aime beaucoup, enfin personnellement, il faut le mot est haïssable, mais je préfère presque l'esquisse à l'ébauche définitive qui est ici. Parce que les personnages sont figés, ils sont assis, ils écoutent la musique, et là vous avez quand même un mouvement de danse des deux gamines, on suppose que c'est des gamines, qui est vraiment extraordinaire. Alors, Matisse, sur la fin de sa vie, il a d'abord commencé à faire le découpage de mains et des pieds. Ils sont volontairement omis sur des papiers collés sur des grandes surfaces. Là, c'est Icare. On suppose qu'après son opération du cancer en 1941, il a pris la. 5 ans plus tard, il a commencé la chapelle de Fréjus. Et quelques années plus tard, il était très malade, parce qu'il a quand même passé 6 ans à décorer la chapelle de Vence. Et. Après, il s'est retrouvé malade, donc il ne pouvait plus. C'est une hypothèse la plus. Il ne pouvait plus peindre sur ce chevalet, parce qu'il avait des gros problèmes de ventre, certainement. Donc il découpait dans du papier. Certains disent que c'est à cause de Jazz, la revue qu'il a créée, qu'il a découpé dans du papier. En fait, c'est les deux causes cumulées. la revue de jazz qu'il a créée en 1927. Et là, vous avez le dernier tableau de Matisse, qui s'appelle l'escargot. Alors, pour voir un escargot là-dedans, il faut quand même être balèze. Mais vous pouvez voir quand même que les finitions du papier ne sont pas terribles. Donc, c'est quelques mois avant sa mort, j'ai tenu à présenter ce tableau parce que c'est quand même extraordinaire. Mais vous voyez, pour deviner que c'est un escargot, il faut quand même être fort. Un peu d'exagération. Mais c'est son dernier tableau, donc ici vous avez des défauts. Là vous avez un papier collé qui surmonte le noir. C'est pas fignolé, mais c'est le dernier. Bon. Klimt. Alors, Klimt, c'est un peintre allemand, autrichien. Alors, il aimait bien l'Italie. Vous avez Malsena, le lac du Garde, l'église de Cassonne. Et là, on voit les reflets dans l'eau. Et l'église, les cyprès. Ce sont de jolis tableaux. Malcesina. Malcesina. Alors celui-là, il m'a donné beaucoup de mal, parce que c'est Klee. Klee, c'est un peintre. Il a fallu que je cherche pas mal dans les registres pour savoir que ce qu'il a peint ici, parce qu'on nous présentait ce tableau-là, mais sans légende. Et en fait, c'est à Mazzaro, en 1924. C'est une aquarelle. Mazzaro, je pense que c'est en Sicile. J'en suis pas absolument sûr, parce que j'ai pas trouvé, mais c'est à la pointe est de la Sicile. Et maintenant, c'est un centre de vacances important. Mais là, c'est champêtre. Mais c'est quand même assez beau, je trouve. Alors, Venise vue par Raoul Luffy. Alors, la baie est circulaire, il y a des grands traits rageurs de nuages, des taches, c'est moderne. Comparé à celle d'Albert Marquet dont je vous ai parlé au début, il y a quand même 20 ans de différence entre les deux, je crois, vous pouvez voir que la lagune est transparente, d'un bleu opalin. Mais c'est plus naïf, c'est plus intime, ça dépend. C'est, comme je dis, il était à l'écart des grands mouvements. Des grands mouvements modernes. Alors, Roméo et Juliette. Alors, on a passé un extrait en 1845. Maintenant, on va passer à Prokofiev. Prokofiev disait que la musique française, et principalement celle de Debussy, c'était du veau engelé. C'est spécial. Mais enfin, Prokofiev, c'est un russe. Hein. Alors là, c'est le Roméo et Juliette de Prokofiev. Il y a un problème avec ça. Ça, oui. Alors ça se passe, c'est le Prokofiev de Roméo et Juliette de Prokofiev, qui a 50 actes, 50 tableaux. Là, on est chez le père qui les a recueillis sous sa protection parce que les deux familles les haïssaient. Et les hommes, je crois qu'il est marié. Il est marié. Un très beau passage, plein de douceur. Mmh. Ça, vous connaissez. C'est la danse des chevaliers. Danse des chevaliers, c'est lourd. C'est parce que les chevaliers sont des mauvais danseurs. Ils ont les jambes arquées. Donc, ils sont un peu lourds. Et la musique de Prokofiev pour la danse des chevaliers, mis cette lourdeur des jambes et cette manque de souplesse des jambes. J'ai choisi cet extrait-là parce que c'était bon quand même. Mais c'est diffusé à la radio souvent. Hein. Francis Picabia. Picabia, c'était un du mouvement Dada. Le mouvement Dada débutant en 1916 à Zurich. Parce que, si vous voulez, les gens en avaient assez de voir des morts, des batailles, des mitraillages, des bombardements, tout ça. Donc c'était en réaction contre la guerre de 14. Le mouvement Dada a donné lieu au surréalisme, il a tenu quelques années, mais pas très longtemps. Alors, le surréalisme, ben, j'ai trouvé une citation d'Arago, il y a d'autres rapports que le réel, que l'esprit peut saisir et qui sont premiers comme le hasard, l'illusion, le fantastique, le rêve. Ces diverses espèces sont réunies et combinées dans un genre qui est le surréalisme. C'est Aragon. Surréalisme, c'est un peu le pendant du mouvement Dada, le suivant. Alors, la Joconde aux clés, c'est Fernand Léger. Ce tableau était conçu pour éviter de considérer la Joconde comme une icône. Auparavant, Fernand Léger avait construit le même tableau, mais avec un parapluie. Mais il a dû se rendre compte que ça ne donnait rien. Il a recomposé ça avec un trousseau de clé, la Joconde, qui ferme l'entrée au musée des amateurs. Donc, vous pouvez apercevoir une boîte à sardines rouge. Il n'y a qu'une seule sardine. Je vous laisse le soin d'interpréter cette sardine. Bon, moments musicaux. Rachmaninov. Alors, Rachmaninov, il a fait une rhapsodie sur le thème de Paganini. Il a interverti les 10 premières notes de la partition d'origine de Paganini. Malgré cela, la musique est très riche. On bénéficie d'un romantisme échevelé. On imagine les balades en traîneau dans les paysages enneigés de Russie, dont les amoureux se moquent bien, car les baisers les unissent plus que les flocons et le givre sur les lèvres. Ah, ça... On passe à André Masson, Gradiva. Alors là, j'ai pas vu. Non, il n'y a pas de musique. Ah, si. Excusez-moi. Alors c'est un de mes enregistrements, mais sur c'était tes disques que tu avais achetés avant ton mariage. C'est du vinyle. Et le son est pas très puissant, mais il est bon. Parce que quand vous avez un CD, on bénéficie surtout des aigus. Ben, je suis partagé entre deux micros. Donc là, c'est très doux. Voilà. Thank you. cette musique-là est relativement connue quand même. Bon, on passe à André Masson, peintre, disons, suraliste, qui n'a pas un grade divin. Alors, en 1940, il réalise cette œuvre d'après un roman de Jensen, écrivain allemand. Histoire, un archéologue Harold voit un bas-relief représentant une jeune fille qui marche, c'est-à-dire Gradiva, au musée d'archéologie de Naples. La nuit suivante, il rêve qu'il rencontre cette jeune fille dans les rues de Pompéi, le jour de l'éruption de Vésuve. Au moment de la rencontre, elle s'effondre sur ses jambes, le sexe béant, surmonté par une pièce de boucherie. Tandis que le Vésuve projette sur la ville, ses cendres, et que les abeilles attaquent. La jeune fille disparaîtra dans une fissure murale. Donc on est vraiment dans l'imaginaire, dans le surréalisme. L'archéologue participera à sa recherche après son rêve. Le lendemain, il ne rencontrera que son ami d'enfance. De Jensen à Masson, Gradiva s'est imposé comme la figure incarnant le mythe de la création. Freud, alors ça c'était du pain béni pour lui, croyait en Gradiva, et il voyait en Gradiva une forme d'animisme qui illustre le mythe de Pygmalion. Alors on voit la fissure murale, elle s'est effondrée. Mais le lendemain, il ne voyait rien, parce que ça c'était un rêve. Mais le rêve a été recueilli par le psychologue. Là. Bon, Nicolas de Staël, peintre abstrait. Des plus influents européens de l'après-guerre 1940-1945. Il a voyagé en Italie, Espagne, Maroc, Algérie. Il aura beaucoup plus de succès aux États-Unis qu'en France, et son suicide en 1955 illustrera le conflit qui existe entre les tenants de l'art abstrait et ceux de la figuration. Trop d'influences contradictoires en jouent aussi dans son geste final. René Magritte, 1953, surréaliste. Ses tableaux sur la tour de Pise se retrouvent dans son domaine enchanté. Seule la femme portant une colombe sur son épaule droite apporte une petite note de sensualité dans ses rêves fous. C'est le jour, tandis que les deux autres tableaux sont des rêves nocturnes. Bernard Buffet, vous reconnaissez son style de peinture facilement. Et après, nous avons Olivier Messiaen, 1908-1992, Saint-François d'Assise, parlant d'oiseaux. Alors on peut faire la comparaison entre la version de Franz Liszt en 1825, j'espère qu'elle sera donnée, et celle d'Olivier Messiaen. Ça c'est Liszt, au piano. Alors, Olivier Messiaen. Non, c'est la même. Il y a un problème d'arrêt d'image. C'est des fugues sur parce que Olivier Messiaen était un spécialiste des oiseaux, donc c'était le morceau qui lui convenait. Il chante en même temps, enfin il y a un soliste qui chante, là, c'est, je ne sais plus quel enregistrement c'est. spécialiste des oiseaux. Donc, au piano, il imitait beaucoup les oiseaux également. Et là, vous allez entendre des fugues. Vous voyez la différence entre 1825 et 1985. Alors on en vient à la Tentation de Saint-Antoine de Salvatore Dali. Dans ce tableau, Dali conjugue érotisme et religion, charnel et spirituel. Saint-Antoine brandit la croix qui fait cabrer le cheval, symbole de force et de puissance sexuelle. Les pattes interminables figurent les plaisirs terrestres. L'obélisque crevant les nuages rappelle celui de la Piazza Minerva à Rome, reposant lui aussi sur un éléphant, où il est écrit « C'est le signe d'un esprit solide que de supporter une sagesse solide ». Sous les pattes du troisième éléphant, le Christ brandit l'évangile pour détourner, c'est là, tout en bas. Les tableaux de Dali, c'est ça, hein, faut pas avoir peur de voir un détail. Et là, c'est très important. De voir ceci. Sur un dernier nuage, en haut à droite, certains ont pu voir les toits du palais de l'Escurial, parce qu'il conjuguait dans ce tableau sa nationalité espagnole et sa nationalité italienne qu'il avait acquise. L'histoire italienne de Saint-Antoine qui l'avait enchanté. Alors, Paul Delvaux, c'est un peintre belge qui trouvait que les œuvres de Giorgio di Chirico, peintre italien, fils d'un employé des chemins de fer, il faisait des tableaux, manquait des personnages, des places vides, sans personne, donc diablement triste. Avec cette œuvre, il a rajouté une note onirique, Paul Delvaux, à savoir quelques femmes nues et des couples. Il avait un diplôme d'architecture, on le sent dans sa peinture. Quatre petites prières pour Saint François d'Assise de Francis Poulenc. Alors Francis Poulenc, nous serions oubliés ce compositeur très éclectique. Nous sommes dans une chorale qui porte ce nom. Il alterne dans ses compositions des dissonances avec des accords classiques, ce qui les rend assez accessibles. Elles peuvent être écoutées pour s'habituer à la musique moderne et peuvent être un bon tremplin pour cela. Mais je pense que dans les pièces religieuses, c'est là qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il a touché un peu à tout. Alors, on peut essayer d'avoir quelque chose de sonore. Non, c'est là. Ben non, ça n'a pas donné. Voilà. On peut revenir en arrière, peut-être. Bien fait de l'informatique, c'est pas grave, on reviendra dessus. Bonnard, Piazza del Popolo, c'est le seul tableau fait en hiver, parce que Bonnard aimait bien la chaleur, les fenêtres entrebâillées qui laissaient passer le soleil. Et là, il est Piazza del Popolo à Rome en plein hiver, la neige recouvre. Et nous avons Roger Toulouse, en 45, qui présente Savonarole. Savonarole, nous avons aussi un spécialiste, je ne sais pas s'il est chez nous aujourd'hui, enfin, il y a un spécialiste de Savonarole.
Il est surtout spécialiste de Roger
Toulouse. De tout. Et bien là, j'ai trouvé ça dans les archives d'Angleterre, le Rome Express. pour vous dire presque... on partait de Paris 11h40, nuit dans le train et journée entière, arrivé à Rome le lendemain à 19h30, et Naples à 1h20. Et l'amour prenait le train aussi, vous voyez qu'on pouvait s'aimer, s'embrasser sur les rails et que personne ne disait rien. Donc il n'y avait pas trop de train à cette époque, mais il y avait quand même pour les amoureux. Bon, alors, il y a... Et un truc qu'on a découvert nous-mêmes, c'est la chapelle de Fréjuste, où Jean Cocteau a donné des dessins à l'extérieur et des dessins à l'intérieur. Il a fait des dessins, vous voyez le style, très, très dépouillé. Hein. C'est pris à l'extérieur avec mon téléphone portable. Il y a dû y avoir une réparation aussi. Alors, nous, on voulait voir à l'intérieur, et chaque fois qu'on criait, on tapait à la porte, on entendait quelqu'un qui hurlait, et puis qui ne nous ouvrait pas. Alors on a fini par téléphoner au bout d'une demi-heure à l'office de tourisme de Fréjuste. Et là, l'office de tourisme a téléphoné à cette pauvre dame qui ne voulait pas se déranger parce qu'elle regardait sa télé, et on a pu voir l'intérieur. Voilà. Mais l'intérieur est splendide, ça a été refait complètement, il a parlé de peintre, une femme peintre. Mais si vous voulez, il y a des copies de Salvador Dali, le Christ en croix dans les nuages là, qui volent. Ça vaut le coup d'être vu, ça ne vaut pas la chapelle de Vence, mais déjà ça, Fréjuste, on ne savait pas. Conclusion. Du haut de notre année 2015 et de tous ces drames, l'on ne peut pas nier que le XXe siècle fut un long fleuve tranquille. Ce sont les paysages lumineux de l'Italie et leurs artistes précédents qui seront les sources d'inspiration principales. À noter aussi les paysages et les arts africains, ainsi que la guerre de 14-18 et son cortège d'explosions fracassantes, de nouvelles inventions pour tuer, les combats violents sous la mitraille qui engendraient le mouvement dadaïste puis la surréaliste. La musique, c'est pour cela que j'ai évoqué le Sacre du printemps de Stravinsky avec ses explosions musicales de toutes sortes, ses dissonances. De plus, on assiste au meurtre d'une jeune fille dans le ballet parce que c'était la coutume de sacrifier une jeune vierge pour que le printemps arrive. L'auteur de la partie musicale a introduit une forme de cubisme musical en copiant les peintres cubistes. En 1918, le jazz apparaît en France. En 1934, sort la musique espagnole inspirée par l'Espagne qui triomphera avec Ravel. L'Italie sera un peu muette, mais ça, après 1945, on s'intéressera plus à l'Italie, la dictature fasciste ayant disparu. L'art abstrait reviendra en Europe, le rayonnisme, les recherches géométriques avec Pieter Mondrian, le pop art, l'hyperréalisme, etc. Mais heureusement que nous avons parmi nous, mais je ne pense pas qu'elle soit là aujourd'hui, des peintres comme Adrienne Boulay. Elle est là ? Ah bon, ben, qui profitera des voyages en Italie avec la Corfi pour prendre des photos du cloître de la cathédrale du Prato, du pont en bois de Balsano, qu'elle traduira en peinture de retour chez elle ? A-t-elle fait un petit détour par un magasin qui vendait de la grappa? Je ne saurais le dire. Les peintres sont assez mystérieux. Mais je tiens à vous remercier de votre participation et de votre attention. Merci beaucoup.
Eh bien, merci pour toute cette recherche.
Oui, il y a eu des petits problèmes au début.
Non, mais ça
arrive toujours.
C'est le problème de la fille. On peut le remercier parce qu'il y a vraiment un travail de recherche. Et c'était très bien de pouvoir examiner ces peintres que finalement on ne connaît pas beaucoup. Hein.
Oui.
On peut aller dans le musée, on peut aller dans les expositions spéciales, hein, pour voir tout ça.
C'est sûr.
Vous avez une question? Bah,
en fait, c'était plutôt un peu plus de musique.
Ben, c'était un équilibre difficile. On parle de musique, mais on parle aussi de peinture. C'est un équilibre difficile. Si tu mets trop de musique, les gens disent qu'il n'y a pas assez de peinture. Donc j'ai essayé d'équilibrer les deux. Voilà. sais, c'était pas.
Vous avez des questions à poser, monsieur Bernard ?
Comment ? Le sacre de printemps ?
Le sacre du printemps.
Ah, non, non, mais c'était en dehors. Le sacre du printemps, c'était pour montrer que quand même, les peintres, comme que Stravinsky avait copié les peintres cubistes en révolutionnant la musique avec des accords violents, le non-respect des notes, les dissonances, tout. C'est pour ça que quand vous passez du Stravinsky à quelqu'un qui est resté à la musique classique, bah, ça ne va pas toujours. Hein. Je me rappelle, j'avais un ami, Constance, docteur, je lui avais fait écouter du Stravinsky. Il m'avait remercié parce qu'en ce temps-là, on se prenait gratis les uns les autres. Donc il m'a offert un disque de Beethoven. Et je dis, pour vous reposer après Stravinsky.
C'est tout à l'autre monde, cette musique-là. Il faut s'habituer à ces dissonances.
Oui, il faut vraiment. Allô ? Ben, il y a eu deux tableaux. Il y a eu la visite chez le prêtre à la chapelle où il les accueille, et puis il y a eu également la danse des chevaliers que j'ai choisi parce que les chevaliers sont maladroits, ils dansent mal, donc j'ai choisi cette spectacle. Donne.
Poser question.
C'est poser une question plutôt à l'assistance, parce que ça a dû évoquer pour vous beaucoup de souvenirs. Je vais parler des souvenirs de picturaux ou d'œuvres sculpturales aussi, ou de la musique si vous voulez. Moi, j'ai là des souvenirs que j'ai eus qui m'ont le plus marqué. C'était dans Matisse, la danse, et où j'ai vu dernièrement, enfin j'ai vu la préparation de la danse au musée Matisse de Cambrai.
Oui.
Alors je ne sais pas si vous êtes allé, si Jean-Louis est là, il doit connaître, évidemment par cœur, mais je vous recommande le musée Matisse de Cambrai. Vous voyez le. Bon, on voit toute la préparation à cette œuvre remarquable. Je ne sais pas, je ne savais pas que, je ne me rappelais pas en tout cas, que la danse était à l'Ermitage.
Si, oui, elle est en réparation actuellement.
Je me souviens de l'avoir vue au.
L'Ermitage,
j'étais
en haut de l'escalier.
Je ne m'en souviens pas, pourtant. Je me souviens de l'avoir vue à New York, mais enfin bon.
Quoi ?
Oui, je disais que je l'ai vu à l'Ermitage en haut d'un escalier et c'était.
Est-ce que la danse n'a pas de vitraux et il y a peut-être des personnes qui ont envie de m'évoquer des souvenirs.
Je suis fière qu'on en a pas parlé.
J'espère qu'il y aurait pu apporter des compléments.
Complètement. Non, non.
Béatrice, tu as des compléments ?
C'est simple.
Vous nous excuserez des débuts, un peu pénibles, mais enfin, c'est toujours la technique qui foire.
C'est dommage qu'on n'ait pas entendu la musique de la bande.
Eh bien, on peut remercier notre ami
Jacques.
Et nous donnons-nous rendez-vous dans une semaine, n'oubliez pas, c'est dans une semaine que nous entendrons notre amie Danielle.